Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Jamais la route n'avait été aussi meurtrière en France qu'en 1972. 16 545 personnes tuées dans des accidents, c'est dire les progrès réalisés depuis en la matière. 4 fois moins de morts désormais alors que le trafic s'est densifié. La ceinture de sécurité, les nouvelles limitations de vitesse, les contrôles d'alcoolémie, mais aussi les progrès techniques sur les véhicules ont contribué à rendre la route moins dangereuse. Pourtant, depuis 3 ans, la mortalité routière est à nouveau en hausse. 3 268 morts en 2013, 3 477 en 2016 et une année 2017 qui devrait confirmer cette tendance. D'où les décisions annoncées début janvier par le Premier ministre afin, dit-il, d'agir sur le comportement des conducteurs. Alors la plus commentée de ces décisions concerne la vitesse. À partir du 1er juillet prochain, elle sera réduite sur les routes secondaires de 90 à 80 km/h. Une mesure susceptible, selon Édouard Philippe, de sauver 350 à 400 vies chaque année. Des sanctions alourdies en cas d'usage du téléphone au volant, une généralisation des éthylotests antidémarrage sont également au programme. L'objectif, c'est de passer sous la barre des 2000 morts en 2020. Alors la sécurité routière va-t-elle dans le bon sens ? C'est la question que nous posons ce soir à deux invités. Chantal Perrichon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous présidez la Ligue contre la violence routière. Je renvoie à un ouvrage que vous avez signé au petit matin, c'était en 2015, Objectif zéro accident. Pour discuter avec vous, Marc Bertrand, bonsoir.
Bonsoir.
Membre du bureau national de la Fédération française des motards en colère, les deux roues motorisées qui sont particulièrement concernées par ces questions-là, puisque d'après les chiffres de l'Observatoire national de la sécurité routière, ça représente 2% du trafic, mais 22% de la mortalité routière. Je précise que vous siégez par ailleurs au Conseil national de la sécurité routière. Et puis, je ne suis pas tout à fait seul pour présenter ce débat, puisque comme chaque fin de mois, c'est le directeur de la Croix, Guillaume Goubert, qui est à mes côtés. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Je rappelle le principe, hein, à la fin de chaque mois, on revient sur un des débats, sur un des sujets qui nous a semblé parmi les plus importants du mois écoulé. Ce soir donc, cette question de la sécurité routière, avec aussi peut-être, pour commencer, si vous le voulez bien, la question des objectifs en matière de sécurité routière. Pour vous, Marc Bertrand, ça doit être quoi l'objectif ? Réduire au maximum le nombre de morts, réduire au maximum le nombre d'accidents, aller vers un zéro accident comme le propose par exemple notre autre invité Chantal Perrichon ?
Un zéro accident, c'est un objectif ambitieux et même si il serait inatteignable dans la mesure où les gens continuent à circuler, il est ambitieux parce que il peut contribuer à abaisser encore la fréquence des accidents sur nos routes. Pour autant, nous, à la Fédération des motards en colère, on considère que c'est surtout une affaire de comportement. C'est une affaire de normes sociales aussi. C'est la perception qu'ont les gens de la sécurité routière et du déplacement général. Et c'est quelque chose qui est en ce moment en forte évolution.
Chantal Perrichon, pour qu'on comprenne ce que cela veut dire pour vous, l'objectif zéro accident, est-ce que c'est avant tout un cap qu'il faut se fixer pour réduire au maximum justement l'accidentologie ? Ou bien est-ce que c'est véritablement un objectif que vous pensez pouvoir être atteint un jour ? Je ne sais pas quand.
C'est un objectif que nous avons depuis les années 90, c'est dire s'il est ancien. Et les premières discussions dans notre association à ce propos étonnaient certains de nos adhérents qui ne comprenaient pas, qui trouvaient que c'était un peu utopique. Et en fait, il s'agit d'un calage sur le monde de l'entreprise, l'industrie. Ça ne choque personne de voir que depuis 2 siècles, lorsqu'il y a des accidents dans le milieu professionnel, il y a immédiatement des ingénieurs qui vont analyser les causes de l'accident pour éviter que finalement une personne n'ait un bras arraché ou un traumatisme épouvantable. Il faut éviter, après analyse des causes, que l'accident ne se reproduise. Et c'est considéré comme absolument normal. Et nous avons pensé qu'il était absolument nécessaire d'avoir ce même calage en ce qui concerne la sécurité routière, c'est analyser toutes les causes de l'accident pour y remédier et faire en sorte qu'il ne se reproduise pas.
Alors là, on procède par étapes, enfin, s'agissant des objectifs tels qu'ils sont fixés. 2020, moins de 2000 morts sur les routes, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît atteignable dans le...
Il y a quelques temps encore, j'aurais dit, il faut arrêter avec cet objectif. très clairement. Maintenant,
parce qu'il était trop ambitieux ou pas assez?
Il n'était pas du tout trop ambitieux. Il était tout à fait naturel de le... C'est Manuel Valls qui en a parlé la première fois. Il était tout à fait naturel de le proposer. Mais encore fallait-il avoir une politique qui allait étayer et qui allait aller dans le sens de ce mois de 2003 en 2020. Ce n'a pas été le cas pendant un quinquennat. Donc maintenant, nous avons à nouveau de l'espérance et on se dit que peut-être, mais nous en reparlerons peut-être ensuite, il y aurait une probabilité d'atteindre un chiffre avoisinant.
Marc Bertrand, sur cet objectif-là de 2000 morts, moins de 2000 morts en 2020.
Alors ça, pour moi, c'est, enfin pour nous, à la Fédération des motards en colère, c'est des incantations, c'est des phrases que lancent comme ça les politiques pour se donner bonne conscience, pour montrer à l'opinion publique qu'ils s'occupent de sécurité routière. Alors on fronce les sourcils, on fait des grandes déclarations, mais dans leur politique sur la sécurité routière, en fait, il n'y a pas grand-chose. Il y a tellement peu que on avait analysé les programmes des candidats aux dernières présidentielles, et en ce qui concerne celui qui est devenu président de la République, son programme ne comportait pas un seul item sur la sécurité routière. Il s'en moque complètement. Édouard Philippe, jusqu'à présent, je n'ai jamais entendu parler de sécurité routière non plus.
Sauf qu'il l'a fait début janvier. Alors on va justement voir si parmi les mesures qui sont préconisées, certaines sont susceptibles de réduire considérablement ou pas le nombre de morts sur les routes. Guillaume Goubert.
Ben oui, bien sûr. Est-ce que la question qui vient tout de suite, c'est celle du 80 km/h. Marc Bertrand, est-ce que ça vous paraît une mesure utile?
C'est une mesure cosmétique pour nous. C'est un coup de com. Réduire de 10 km/h la vitesse sur les réseaux secondaires, en considérant que c'est les réseaux les plus accidentés, et ce qui est vrai, d'abord, ça nous semble assez hypocrite que dans le même temps, on continue à laisser les sociétés privées à qui on a vendu leurs autoroutes augmenter leurs tarifs, alors que là, on a les réseaux les plus sûrs. Et c'est pas normal que ces réseaux soient payants. Puis si la sécurité routière est un enjeu national, il faut s'en donner les moyens. De l'argent, il y en a. Nous, ça fait des années que nous demandons des infrastructures routières plus adaptées à la circulation des motos en cas de chute. Et on n'en est encore qu'à demander que le Conseil national de sécurité routière finisse par prononcer des recommandations pour la prise en compte de recommandations déjà énoncées par l'État. Donc que l'État fasse déjà son travail tel qu'on le demande, et on verra. Mais ce 80 km/h, c'est une espèce de totem autour duquel on nous fait danser, quoi, pour nous.
Chantal Perrichon.
Alors, il y a un point de désaccord et un point d'accord. Il est clair que pour nous, ce n'est pas du tout cosmétique dans la mesure où cette mesure a été priorisée en 2013 par les experts du Conseil national de sécurité routière. Et donc, très clairement, nous savons maintenant, grâce à des modélisations qui sont souvent très décriées, hein, parce qu'archaïques, parce qu'anciennes, bon, un petit peu moins anciennes quand même que le théorème de Pythagore qu'on ne va pas tout de suite jeter à la poubelle, mais véritablement, nous savons que grâce à cette baisse de la vitesse moyenne, il y aura moins de tués sur les routes, ce qui est pour nous l'objectif absolument principal, incontournable.
Alors Philippe évoque 350 à 400 oui. morts en moins, ce qui semble toujours un petit peu compliqué, c'est-à-dire oui. d'anticiper oui. une échelle de...
Regardez ce qui s'est passé avec les premiers radars. Hein. Les premiers radars, il n'y a pas eu une baisse des vitesses maximales autorisées. Il y a simplement eu l'observation et le respect des vitesses maximales. Donc, tout simplement, vous, moi, nous tous, nous avons fait attention et la vitesse moyenne a baissé. Et grâce à cela, nous avons eu en quelques années moins 41% de tués sur nos routes. Tout simplement parce que les radars étaient là pour protéger des vies, tout simplement, et rien d'autre. Eh bien là, en l'occurrence, on baisse la vitesse maximale. Et si, je dis bien, et si, il y a observation et respect et application de cette vitesse, à ce moment-là, il y a la possibilité de sauver entre 350 et 400 vies. Peut-être même plus si les contrôles sont de qualité.
Chantal Perrichon, dans le courrier des lecteurs de La Croix, et nous en recevons beaucoup notamment sur ce sujet-là, il y a deux arguments qui m'ont frappé. Le premier, c'est de dire cette réduction de vitesse pénalise ceux qui respectent les limites d'aujourd'hui. Et il y en a un autre qui dit c'est le monde rural qui va souffrir. Qu'est-ce que vous répondez sur ces deux points?
Alors nous avons beaucoup entendu hein, cette France parisienne qui décide qui va à l'encontre finalement de ceux qui sont dans les départements. Eh bien justement non. Il faut d'abord, dans notre association, nous avons beaucoup de gens dans les départements. Ils sont favorables, bien évidemment, parce que quotidiennement, ils sont confrontés à l'accidentalité. Continuellement, ils sont confrontés à la mort sur la route. Et ce que nous voulons, nous, c'est que les gens qui, précisément, sont en prise directe sur ces routes les plus dangereuses de notre pays, eh bien, nous voulons que ces gens aillent travailler, aillent déposer leurs enfants à l'école, aillent faire leurs courses sans, finalement, que leur vie soit en danger. Donc, c'est pas du tout Paris qui décide pour la province, mais c'est au contraire tenir compte de ceux qui sont obligés, parce qu'ils n'ont pas les transports que nous avons dans les grandes villes, eh bien tenir compte de leur nécessité de se déplacer et faire en sorte qu'ils le fassent en toute sécurité.
Et alors l'autre remarque, c'est-à-dire si tout le monde respectait les limites d'aujourd'hui, il n'y aurait peut-être pas besoin de baisser à 80 à l'heure ?
Alors, il est certain, on va prendre un autre exemple. Il est certain que si on respectait les limitations de vitesse, ce qui n'est pas le cas actuellement, il y aurait déjà une baisse, bien évidemment, de la mortalité. Mais regardez ce qu'il en est, on va prendre l'exemple des autoroutes parce que c'est simple à comprendre. Nous sommes favorables à un 120 sur les autoroutes. Pourquoi ? Parce que lorsque vous baissez cette vitesse maximale, la vitesse moyenne baisse et vous avez moins de tués. En Espagne, ils sont à 120, mais ils ont fait un jour, pendant 4 mois, une expérimentation à 110. Et bien pendant ces 4 mois-là, il y a eu moins 36% de tués. C'est-à-dire que lorsque la vitesse maximale baisse, et vous avez des vitesses, l'ensemble des autoroutes, la majorité des autoroutes en Europe est à 120, et bien lorsque cette vitesse maximale est moindre, vous avez toujours moins de tués.
Marc Bertrand, est-ce que vous contestez le fait que quand on diminue la vitesse maximale, ça a une influence sur le nombre de morts sur les routes ?
En fait, on parle de vitesse maximale autorisée. C'est un barème, c'est une norme. Voilà. On sait déjà par l'Observatoire des vitesses, qui a disparu depuis de l'Observatoire international de la sécurité routière. Ils parlent aujourd'hui de leur mettre en place. On fabrique les outils qu'on a détruits par ailleurs. On sait que la vitesse moyenne sur les réseaux secondaires, elle est déjà d'environ 80 km/h. On veut pas nous en faire un débat sur cette limite de vitesse, que ce soit 80, 90, c'est pas la question. Pour nous, conduire, c'est bien se comporter sur la route. Évidemment, plus on a un accident à vitesse élevée ou plus on roule à vitesse élevée, moins on peut réagir en cas d'incident qui commence à se produire. Mais si les gens respectaient déjà les limitations, les interdistances correctement, si les gens n'étaient pas occupés à téléphoner en voiture, si les gens communiquaient entre eux avec leurs clignotants, s'inquiétaient un peu de leur environnement en regardant dans le rétroviseur, on n'en serait pas là. Si les gens en fait étaient un petit peu plus courtois, un peu moins sous pression, alors c'est peut-être pas complètement de leur faute non plus, je pourrais développer ça si vous voulez, mais en fait si tout ça était un peu plus apaisé, je pense que le nombre de morts diminuerait, mais vraiment fortement. Après, si Édouard Philippe dit qu'il veut sauver des vies, qui s'engagent chez les pompiers volontaires, par exemple, qui font un travail remarquable, ou qui fassent doubler tous les rails de sécurité, qui découpent une dizaine de motards tous les ans. On peut en trouver, là, des gisements pour réduire la mortalité sur la route.
On ne va pas parler ce soir que de la vitesse, parce qu'il y a tout un tas d'autres mesures qui peuvent être prises, justement, pour réduire le nombre de tués sur les routes. Mais pour rester encore un instant sur ce sujet, Marc Bertrand, donc, je rappelle, vous représentez la Fédération française des motards en colère. Est-ce que ça pose aussi un problème quand on est, justement, motard que d'agir sur cette question de la vitesse, ou en tout cas, est-ce que la vitesse fait partie de la pratique, disons, motocycliste, et que la réduire, ça réduit aussi le plaisir de la conduite. Est-ce que vous êtes dans ce discours-là, vous ?
Non.
Parce que c'est ce que disent certains automobilistes, par exemple.
Oui,
de dire, voilà,
bon, bien sûr,
ça fait partie aussi de la liberté.
Le plaisir de conduire. Ou la liberté, ça se mesure pas en nombre de kilomètres heure sur la route, faut arrêter de déconner.
Il peut y avoir une griserie dans la vitesse, hein, je veux dire.
Alors, plutôt dans l'accélération, je dirais, si on veut aller par là, techniquement, mais non, dans la vitesse, ça n'a pas de sens. Ce qui nous agace, nous, à la Fédération des motards en colère, on est quand même depuis 1980 engagé sur les questions de sécurité routière, c'est que finalement, la politique de sécurité routière mise en œuvre par ce gouvernement, et les précédents d'ailleurs, ne joue que là-dessus. Évidemment, il y a un instrument aujourd'hui de surveillance et de contrôle implacable qui est le radar et la chaîne numérique qu'il y a derrière, hein, c'est des amendes automatisées. C'est devenu le variable essentiel de la politique de sécurité routière, qui en fait n'est plus une politique de sécurité routière. On a des incantations de politiciens qui d'un seul coup découvrent le sujet et font des déclarations. Et puis ensuite, on a un système radar qui est implacable et qui sanctionne. Alors, je rentre pas dans le débat sur la nécessité de la sanction, mais où est la pédagogie? Où est la prévention? Où est la prise en compte des gens comme des individus responsables? Le slogan de la sécurité routière, c'est tous responsables, et ils nous traitent à chaque fois comme des irresponsables, comme si nous étions des gamins de 3 ans.
À ce sujet, alors justement, Chantal Perrichon, donc à la Ligue contre la violence routière, vous plaidez pour la mise en œuvre du LAVIA, qui est un limiteur de vitesse automatique, c'est-à-dire qui est détecté, je crois, par GPS, et où on n'a pas besoin de l'enclencher, c'est ce limiteur qui se déclenche tout seul. Est-ce est-ce que ça ne contribue pas justement à déresponsabiliser l'automobiliste? Alors, l'automobiliste ou le motard, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des limiteurs de vitesse, il y en a sur des motos,
Marc Bertrand. Oui, ça peut aussi.
Pas encore, mais pour nous, le meilleur limiteur de vitesse, c'est le cerveau. Hein.
Mais en attendant, il y a des cerveaux défaillants, donc on peut effectivement s'appuyer sur des technologies. En ce qui concerne le LAVIA, qui s'appelle ISA, Intelligent Speed Adaptation au niveau de l'Europe, c'est quelque chose qui sera absolument indispensable dans le véhicule autonome. Et tout le monde trouve ça normal. Pour le véhicule autonome, c'est normal. Mais il n'empêche que la responsabilité du conducteur continuera à fonctionner. Pourquoi ? Parce que ça empêche d'aller au-delà de la vitesse maximale autorisée. Mais qu'est-ce qui vous empêche ? Ça ne vous empêchera pas de choisir la vitesse. Est-ce qu'il est nécessaire dans des petites rues, dans certaines grandes villes, de rouler à 50 ? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas rouler à 30 ? Donc vous aurez toute possibilité de choisir encore la vitesse la plus adaptée, effectivement, à la voie sur laquelle vous êtes en train de circuler.
Mais moi, la voiture autonome, elle va permettre peut-être au contraire d'aller plus vite, parce que ce sera des voitures qui seront plus sécurisées, avec peut-être des décisions qui seront là aussi moins accidentogènes, et donc on pourra peut-être revenir à des vitesses plus rapides, parce qu'on parle aussi d'une société dans laquelle on est habitué aussi à se déplacer de plus en plus rapidement.
Oui, c'est bien de poser le problème comme ça, c'est bien de nous faire rêver avec les véhicules autonomes, qui n'est ni pour demain, ni pour après-demain, ni pour après-après-après-après-demain. Il est certain qu'il y a des technologies que les constructeurs sont en train de mettre en place, qui sont la boîte noire, par exemple, nécessaire, hein, parce qu'il va y avoir des accidents entre quand on va matcher le parc automobile classique avec le véhicule autonome, ça donnera effectivement du travail pour les juristes, ce sera tout à fait intéressant. Mais on voit bien que des technologies qui sont extrêmement importantes pour sauver des vies, pour faire de la prévention, ne sont pas mises en place actuellement parce que les constructeurs ne veulent absolument pas en entendre parler. Marc Bertrand avait raison de rappeler tout à l'heure que le Conseil national de sécurité routière est une foutaise absolue et ne sert absolument à rien. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'il n'a absolument pas été consulté par le Premier ministre pour prendre des décisions pour le Conseil interministériel de sécurité routière. Et heureusement, parce qu'en 2003, c'était pareil. Le Conseil national de sécurité routière n'avait pas été consulté. Surtout, ne jamais consulter ce CNSR. Pourquoi ? Parce que sont présents toutes les parties prenantes, tous les lobbies, c'est-à-dire que chacun paralyse l'autre, et vous avez des réunions agréables, moins agréables, pénibles, pas pénibles, qui ne servent à rien.
Mais... Si, ça sert quand même à quelque chose, mais c'est très très lent. Ça sert déjà à se connaître, ça sert à ce que des associations comme la nôtre et comme la vôtre aient pu rentrer en contact au lieu de s'envoyer des mots d'oiseau sur les réseaux sociaux,
par exemple. On n'en voit jamais de mots d'oiseau.
Ça permet d'avoir accès aussi à des études, notamment sur les mobilités de demain, sur ce qu'on appelle le véhicule autonome, qui n'est pas autonome du coup, puisque c'est le véhicule qui pilote et les systèmes informatiques qui le contrôlent. Mais pour revenir à cette mesure emblématique du 80 km/h et de la vitesse, ce qui agace énormément les usagers, et pas que les motards, hein, on l'a vu avec les automobilistes, c'est que c'est une mesure qui leur semble autoritaire, et les gens ne peuvent s'empêcher de faire une comparaison entre les contraintes qu'on leur impose, comme nécessaires, et le fait que ceux qui les annoncent semblent ne jamais devoir y souscrire eux-mêmes. Voilà, il y en a des contraintes de partout. Alors, quand on est un citoyen lambda, que l'on soit dans la rue, que l'on soit au travail, encore qu'au travail on puisse le comprendre, mais on a l'impression d'être toujours sous la subordination d'un système. Et ça, c'est un petit peu antagoniste avec le fait de se déplacer et de se dire, quand je me déplace, je fais mes choix, et du coup je suis surveillé, et du coup j'ai des contrôles, et du coup si je fais une infraction, je suis immédiatement sanctionné, alors qu'on voit bien que des gros groupes industriels peuvent polluer, peuvent foutre des produits dégueulasses, peuvent produire de la malbouffe, donc on connaît les effets, et que ça met des années avant que des sanctions ne tombent.
Guillaume Goubert.
Encore une question sur la vitesse, Chantal Perrichon. Est-ce que l'unicité du 80 km/h n'est pas quelque chose de typiquement français ? C'est-à-dire le côté, il faut que ce soit la même règle pour tout le monde, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas une plus grande modulation des vitesses selon les lieux, voire selon les horaires ? J'ai fait l'expérience en Norvège, les horaires, les vitesses la nuit sont un peu plus élevées que pendant la journée. Elles sont quand même globalement très basses, il faut bien le dire. Mais il peut y avoir 3, 4 vitesses différentes. Et je me demande même si ça ne pousse pas à une plus grande attention que de devoir sans cesse regarder à quelle vitesse on a le droit d'aller.
Alors, nous avons une géographie un peu spéciale en France. 1 million de kilomètres de route à contrôler, ce qui est absolument extraordinaire par rapport aux autres pays européens. Et là, très clairement, sur ces routes, 400 000 kilomètres de route, il y a des routes, pour certains disent, mais passer à 80, mais vous êtes stupide. Nous avons reçu des courriers intéressants, parce qu'il y a des cerveaux quand même qui nous écrivent en disant « Oh, si on passe à 80, moi je vais encore plus téléphoner parce que je vais m'ennuyer, je vais encore plus envoyer des SMS ». On a vraiment des intellectuels qui nous écrivent. Donc, typiquement, ce qui est dangereux, sur ces routes. Ce sont les routes qui donnent l'illusion de la sécurité. Ce sont les belles routes droites dont on parle souvent. Ces grands axes droits, qui sont de belles infrastructures d'ailleurs. Eh bien, sur ces routes, ce qui compte, c'est le trafic. Si vous avez 10 000 véhicules jour, c'est là que vous êtes en danger. Vous êtes beaucoup plus en danger sur une route comme ça, sur ce type d'axe, que lorsque vous êtes en montagne, où il y a effectivement des lacets extrêmement en épingle à cheveux, comme on dit, qui font que vous allez réduire votre vitesse parce que vous avez le sentiment d'insécurité. Donc, c'est la raison pour laquelle, contrairement au ressenti du risque du conducteur, il faut prendre des mesures et ne pas s'adapter à son ressenti, mais voir ce qu'il en est de l'accidentalité. Et ce que disait Marc Bertrand tout à l'heure, qui est important, c'est que les observatoires de vitesse ont disparu. Ils avaient été programmés, ils ont disparu, ça ne sert à rien. Or, nous réclamons dans chaque département un observatoire de vitesse qui nous montrera ce qu'il en est dans chaque département de la vitesse maximale, la vitesse ensuite appliquée, pour voir ce qu'il en est. En la comparant avec l'accidentalité. À ce moment-là, nous rentrerons dans une phase de pédagogie, d'information, pour que les gens comprennent qu'il s'agit d'une bonne mesure.
Pour autant, il y a un type de route qui semble être celui où on est le moins en danger, même si évidemment il y a beaucoup d'accidents, ce sont les autoroutes. Or, c'est bien sur les autoroutes que la vitesse maximale est la plus importante. Or, vous soulignez un paradoxe dans l'entretien, parce que je n'ai pas rementionné Guillaume Gobert au début de l'émission, que l'un et l'autre, vous répondez à cette question, la sécurité routière va-t-elle dans le bon sens, dans le journal La Croix de ce mercredi. Vous soulevez un paradoxe, Marc Bertrand, en disant finalement ce sont à la fois les routes les plus sûres, mais ce sont en même temps les routes les plus chères. Donc, ce ne sont pas celles qui sont le plus accessibles. Et il y a du coup des poids lourds, par exemple, qui vont se retrouver sur ces routes secondaires parce que cherchant à éviter les péages.
Oui, oui, oui. Alors, évidemment, on ne peut pas prendre l'autoroute tout le temps, même s'il était gratuit. Sur les routes secondaires, les gens ne vont pas forcément prendre l'autoroute parce qu'ils n'ont que 20 km à faire entre leur petit bled et puis un autre où ils se rendent pour leurs activités.
Pour autant, la gratuité, ça pourrait être déjà une mesure de sécurité routière.
Mais ce serait la moindre des choses, puisque ce sont les réseaux les plus sûrs. Alors, nous, on veut bien accepter le 80 km/h, mais donnez-nous des autoroutes gratuites tout de suite. Ah là, et là, on verra si Edouard Philippe il veut sauver des vies. Parce que ça, c'est facile. Et sur autoroute, les accidents sont assez peu fréquents. Bon, quand ils arrivent, ils sont souvent graves. Parce qu'effectivement, il y a une vitesse élevée. Hein. Nous, à moto, quand on circule sur autoroute, il n'y a pas d'accident de moto sur autoroute. Ça, le type qui a un accident de moto sur autoroute, c'est qu'il s'est endormi, quoi. Ou c'est qu'il a éclaté un pneu. Mais c'est extrêmement rare, ou qu'un automobiliste lui a changé de fil d'un seul coup devant lui sans mettre de clignotant ou sans même regarder si un motard était dans les parages. Mais les accidents sont très peu fréquents pour les motards sur autoroute.
Vous évoquiez au début de l'émission la question des glissières de sécurité. Alors ça ne concerne peut-être pas que les autoroutes, mais en quoi ça pose un problème pour les motards?
Alors ça concerne justement pas les autoroutes parce que les glissières sont généralement doublées sur les autoroutes. Par contre sur le réseau secondaire, elles le sont peu. Les glissières de sécurité, tout le monde voit ce que c'est. En fait, ce sont les dispositifs de retenue qui sont censés empêcher qu'un véhicule en perdition, un véhicule automobile en perdition, ne finisse dans le décor où l'accident peut s'aggraver. Voilà, parce qu'il va heurter un arbre, il va tomber dans un fossé, il peut heurter une pile de pont, etc. Il se trouve que ces glissières de retenue deviennent pour les usagers de deux roues motorisées des rails d'insécurité. Parce que sous la bande de métal qui se trouve sur la glissière, il y a des potelets. Il y a des potelets tous les, je sais pas combien de mètres, mais bon, tous les 10 mètres à peu près. Même pas, tous les 5 mètres. Mais enfin bon, il y a des potelets. Et si vous chutez d'un deux roues, quelle que soit la raison, hein, vous chutez d'un deux roues, si vous êtes déjà dans une courbe, la dynamique de l'accident peut vous projeter contre la glissière. Et là, vous risquez d'heurter un de ces pieds de glissière. Et ça produit des blessures qui sont létales. Voilà, des arrachements de membres, des décapitations, et tout le cortège de misère qui va avec. Et ça fait des années qu'on demande, on dit simplement doubler les glissières. Ça n'empêchera pas qu'on y soit projeté en cas d'accident, mais on peut peut-être rattraper une victime qui a été protégée par la lisse basse, par le rail inférieur qui aurait été posé, alors qu'une victime qui heurte un potelet de glissière, c'est fini, quoi.
Chantal Perrichon, est-ce qu'il y a des efforts à faire en matière d'infrastructure routière et en termes d'entretien, d'accessibilité, en rendant gratuit les autoroutes, en termes d'aménagement, ou bien est-ce que vous considérez, vous, que le réseau français aujourd'hui est un réseau à peu près sécurisé et que c'est plus le comportement de ceux qui l'empruntent que ce réseau même qui peut être remise en cause?
Alors, il y a les autoroutes qui sont 5 fois plus sûres que tous les autres réseaux. Ça, nous le savons. Mais en même temps, lorsque nous avons demandé en 2002 qu'il y ait des radars sur les autoroutes, nous nous sommes fait agonir d'insultes. Tout simplement parce que les gens disaient, mais enfin, c'est l'endroit le plus sécurisé, pourquoi vous demandez des radars là encore? Eh bien, dans l'année qui a suivi, moins de tués. Et 2 années après, moins 200 tués sur les autoroutes. C'est dire que même lorsque la voie est sûre, si la vitesse est moindre, il y a moins d'accidents parce que la vitesse est la première cause déclenchante de l'accident.
La gratuité?
Alors, la gratuité, bien sûr. Moi, je veux bien qu'on rase gratis demain, je ne suis pas contre. J'ai jamais été contre des bonnes mesures comme ça, mais on sait bien que cela ne va pas se faire. Moi, je préfère, et dans notre association, nous nous battons pour le 120, parce que nous pensons que ça va dans le bon sens, ça va sauver des vies, et puis ça va dans les engagements de la COP 21, y compris la COP 23, parce qu'on fait toujours rien, mais c'est magnifique, on s'engage. Donc là, moins de consommation de carburant, donc ça irait dans le bon sens.
Mais j'imagine qu'on vous dit, alors attendez, oui. Parce qu'à une époque, on pouvait rouler, c'était quoi, 140 ?
Oui.
130 ?
Oui.
120 ?
Oui.
C'est-à-dire,
ne me faites pas le coup du 50, je vous en supplie.
Non, je n'allais pas jusqu'à 50. Non, mais ce que je veux
d'accord.
dire, c'est-à-dire,
non, mais
où est-ce qu'on met le curseur ? C'est-à-dire entre une vitesse qui serait maximale ?
Eh bien, il y a un compromis, vous avez raison de le dire, il y a toujours un compromis. Regardez ce qu'il en est de la majorité des autoroutes européennes. Il y en a qui sont à 110, il y en a qui sont à 120. Nous, 120 nous semble un bon compromis. Et en ce qui concerne l'infrastructure, oui, bien sûr, il y a d'énormes progrès à faire. Nous avions demandé au candidat François Hollande qu'il s'engage finalement sur un programme de sécurité routière. Il nous avait promis un audit de l'infrastructure. Nous ne l'avons jamais eu. Jamais. Et c'est tout à fait essentiel. Et nous voulons une feuille de route pour tous les départements, la même. C'est-à-dire que chacun, en fonction de consignes qui viendraient effectivement de tous les organismes de sécurité routière, puisse regarder ce qu'il en est de l'infrastructure dans son département.
Marc Bertrand, vous mettez en avant la nécessité de l'éducation routière. Comment fait-on pour éduquer à la route, concrètement ?
Alors,
ça passe par quoi ? Ça commence à quel âge ?
Ça devrait commencer à l'école. Alors bon, là, je vais peut-être un peu être utopique moi aussi, mais pourquoi pas, hein, puisque les réalités d'aujourd'hui sont souvent les utopies d'hier. Et ça se passe à l'école, mais là, il n'y a pas de moyens pour l'instant. Ça se passe ensuite dès les apprentissages initiaux quand on est candidat à un permis de conduire, quel qu'il soit. Et ce qu'on voudrait déjà, c'est que ce qui est existant aujourd'hui ne soit pas cassé demain. Et avec la loi Macron, qui était parue quand il était ministre de l'économie, ça a déjà commencé, puisque maintenant, on permet aux candidats de bachoter leurs contenus pédagogiques théoriques initiaux par des plateformes Internet. Au grand profit de développeurs de programmes Internet et en enlevant du coup l'interaction d'un professionnel, d'un éducateur de la route, d'un éducateur de l'enseignement routier, qui peut plus du coup interférer avec des élèves, répondre à des questions. L'éducation routière, c'est pourquoi pas aussi proposer gratuitement des stages aux conducteurs. Au lieu de les convoquer à des stages de rattrapage de points, on appelle ça des stages de sécurité routière, mais en fait, les gens, ils vont pour rattraper les points perdus, des points perdus sur leur permis. Je précise que moi, j'ai les miens. Je n'ai donc jamais fait ce genre de stage, même si j'en ai observé. Voilà. Et on propose à des gens d'aller faire un stage de sécurité routière pour rappeler les bonnes pratiques, alors qu'ils ont déjà commis des erreurs, ils ont déjà commis des infractions. C'est stupide, est-ce qu'ils ne voudraient pas mieux le faire avant ? Nous, on voit avec notre association que c'est nous qui allons, alors on n'est pas les seuls, mais nous allons aujourd'hui dans les collèges et on est reçu à bras ouverts, tellement il y a peu de choses qui s'y passent, on est reçu à bras ouverts pour sensibiliser les jeunes à des questions de sécurité routière toutes simples, des questions portant sur le regard, sur l'interaction avec les autres usagers, et puis avec un petit focus aussi accès aux deux roues motorisées, parce que c'est très attirant pour les jeunes de 14 ans qui veulent passer aux deux roues motorisées. Voilà, ça se fait pas n'importe comment. Mais justement, en fait, nous, ce qu'on aimerait, c'est que dans l'enseignement à l'éducation routière, on ait aussi l'éducation au risque. C'est-à-dire que le risque, ça s'enseigne. Quand on va pratiquer un sport dangereux, quel que soit l'âge, je pense à la plongée sous-marine, c'est un domaine que je connais bien, eh ben, c'est un sport qui est risqué. Et les risques, on les apprend. Les indices de prise de risque, on apprend à les reconnaître et on apprend à développer des conduites à tenir pour se tenir éloigné de ce risque. Et ça se pratique dans l'équitation, et ça se pratique dans les sports d'air, enfin dans la montagne, etc.
Mais ça ne se passe pas, par exemple, quand on va prendre des cours à l'auto-école pour y apprendre le code et ensuite la conduite.
Mais non, les auto-écoles, c'est souvent du bachotage, des moniteurs qui font des journées énormes. Voilà, en fait, on s'arrange pour que le candidat paye un maximum. minimum et pour en un minimum de temps, il obtienne son permis de conduire. Et parfois, il va être inspecté aujourd'hui par des agents de la poste, quoi. Donc, on voit bien que l'éducation routière, c'est le parent pauvre, comme dans d'autres domaines. Et ça, nous, on le regrette. Et nous, on est obligés, on a mis ça en œuvre avec notre programme éducation routière de la jeunesse, avec nos propres militants que nous formons sur nos propres fonds. Je rappelle que notre fédération ne touche aucune subvention, on les refuse. C'est nous qui allons faire des sensibilisations dans les collèges. Et on est cueillis à bras ouverts parce que les principaux établissements lycées et collèges, ils n'ont rien.
L'éducation routière est le parent pauvre de la sécurité routière. Vous partagez ce constat, Chantal Perrichon ?
Pas complètement. C'est-à-dire que bien souvent, on parle d'éducation, de pédagogie, ça cache la volonté de ne rien faire. Alors, on va faire des... C'était le grand plan du gouvernement précédent qui se retranchait derrière l'acceptabilité, attendant que les Français, finalement, soient tous d'accord pour prendre une mesure. Et nous pensons que, bien sûr, l'éducation est nécessaire. Elle est là pour que tout un chacun comprenne pourquoi il y a des contraintes. Parce que c'est jamais très agréable d'accepter une contrainte. Nous devons donc, intellectuellement, au niveau du rationnel, comprendre pourquoi il y a une contrainte.
On n'est pas obligé non plus de le présenter comme une contrainte. Parce que si vous parlez de contrainte, déjà, ça donne un côté un peu punitif.
On parle souvent de répression. C'est un terme qu'on nous met en avant. Moi, je trouve que finalement, ceux qui parlent de répression ne devraient jamais voir un match de foot ni de rugby. Parce que le carton rouge, c'est drôlement répressif quand même. Moi, je ne supporte pas la répression. Donc, on arrête les matchs qui sont répressifs. Donc, il faut arrêter avec les mots. Et effectivement, éducation, oui. Pédagogie, oui. Faire comprendre. Mais il y a un problème. Si on se contente de l'éducation, moi, je suis désolée, dans les écoles, on apprend aux enfants la citoyenneté, il faut payer des impôts. Vous croyez que le ministère des Finances va se contenter de pédagogie pour les contrôles de ceux qui payent ou pas leurs impôts? Moi, je veux bien, je suis prête à rêver. Est-ce que vous croyez que les contrôles, nous devons les abandonner dans le métro, à la SNCF, parce que finalement, si on fait de l'éducation, tout le monde paiera, chacun le sait. Donc, il faut arrêter ce positionnement qui est un peu extrême. Il faut que les gens comprennent qu'il est nécessaire de contrôler des comportements, parce que nous n'avons pas tous un même niveau, finalement, de vie en société, de vie en commun. Et ce qui est important également, c'est un vrai problème dans notre pays, c'est le problème de l'évaluation. Marc Bertrand disait à juste titre, il y a des stages de récupération de points. On sait bien que c'est pas de la sécurité routière, c'est pour récupérer ses points. D'ailleurs, on a des hommes politiques qui disent, je ne donnerai pas le nom, tout le monde le connaît, moi je suis obligé d'en faire un chaque année. C'est dire si, de deux choses l'une, ou les stages sont pas bons, ou sa tête est très dure.
Je sais pas de qui vous parlez, non, pour le coup.
Alors, typiquement, ce sont...
C'est un type qui a l'accent du Midi, non ?
Non, il a pas l'accent du Midi. Alors, on continue.
Petit jeu pour nos auditeurs.
Donc là, en l'occurrence, il serait intéressant de voir ce qu'il en est de l'évaluation de ces stages de récupération de points. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on ferait venir, disons, 50 personnes, on dirait, voilà, vous êtes là, les 25 qui sont là vont suivre le stage, les 25 autres, non, vous partez. Et puis on va les suivre pendant 2-3 ans. Puis on va voir si effectivement, ils perdent des points, ils ont des accidents ou pas. Ça, nous ne le faisons jamais, aucune évaluation. Or, c'est un négoce qui marche bien, parce qu'il y a des gens qui vivent de ces formations, de ces stages de récupération de points. Or, il n'y a aucune évaluation.
Marc Bertrand ?
Oui, je me souviens à propos de ces stages de récupération d'un film qui avait été réalisé par Colin Serrault il y a quelques années, et dans lequel on voyait un stagiaire. Alors les psychologues et les éducateurs routiers passent deux jours avec des gens leur expliquant qu'ils ont fait des fautes. Certains sont dans le déni, et puis d'autres pas. Et puis je me souviens de ce stagiaire qui disait d'un seul coup, il disait « Mais comment ça se fait qu'on ne m'a pas expliqué tout ça plus tôt ?» Et là, c'était la révélation. Voilà, comment ça se fait ? Ça se fait que c'est pas expliqué du tout, quoi. Ou très peu, on passe un permis, et puis après, vas-y, roule. Mais en même temps, là où je suis pas tellement d'accord avec Madame Perrichon, c'est que c'est sur le contrôle, sur les contraintes, ça suffit, quoi. Les gens, on a un peu assez d'être surveillés. Si on considérait que les gens aussi, c'est des grandes personnes. Voilà. Les grosses incivilités routières, c'est pas une limitation à 80, à 70 ou à 90 qui va changer quelque chose. Ceux qui transgressent résolument, ceux qui se comportent en pousse-toi de là que je m'y mette et les autres, je m'en fous. De toute façon, ils sont comme ça dans la queue au cinéma, ils sont comme ça au restaurant, ils sont comme ça sur la route, évidemment. Alors, sur la route, ça peut faire des victimes parce que deux véhicules qui se rencontrent, ça fait du mal. Mais voilà, c'est une question d'éducation au sens large. Et c'est une question de culture, on est sur France Culture là, c'est une question de culture, voilà. Et malheureusement, on n'est pas dans une société de culture, de moins en moins. On est dans une société d'émotion, on est une société de déclaration, on est une société qui maintenant réagit par des commentaires sur les réseaux sociaux. Et de la culture du vivre ensemble, il n'y en a pas beaucoup. Nous, c'est ce qu'on prône à la Fédération des motards en colère. On prône le partage de la route. Et c'est une culture. Et voilà, c'est une culture. Ça se défend par la solidarité, par une empathie à l'égard des autres, par de la bienveillance aussi. Et nos responsables politiques ne montrent pas l'exemple. Il faut voir dans quel monde de violence ils évoluent. Il faut voir comment c'est des fonceurs pour arriver aux places qu'ils occupent aujourd'hui, qui ne viennent pas nous faire la morale après sur la violence routière.
Et je signale qu'il y a chaque année, au mois de mars, une semaine de la courtoisie au volant, que l'édition 2018 commencera le 12 mars prochain. Guillaume Goubert.
Oui, j'imagine que l'un et l'autre, vous regardez un petit peu ce qui se passe au-delà de nos frontières. C'est toujours intéressant de comparer les cultures, justement. Est-ce qu'il y a des spécificités françaises dans ce rapport à la sécurité routière? Peut-être d'abord Chantal Périchon.
C'est-à-dire que, oui, nous regardons bien évidemment et nous travaillons même dans notre association avec plusieurs pays étrangers, et ça depuis des années. Nous collaborons véritablement avec eux. Alors bien souvent, ceux qui sont, enfin, l'expression des lobbies disent, allez, regardez l'Angleterre, regardez l'Allemagne. Nous avons eu droit à toutes les fake news habituelles, c'est-à-dire en Allemagne, chacun sait que les autoroutes, on fait ce qu'on veut, quand on veut, au moment où on en a envie. C'est faux, bien évidemment, c'est faux. Idem avec l'Angleterre. Nous avons eu pendant des années cet exemple anglais qui nous était servi. Regardez, en Angleterre, ils démontent leur radar. Ben oui, mais c'est un radar argentique, alors il était grand temps qu'ils les démontent. Oui, mais ils les ont remplacés par plus de 8000 radars qui sont dans des voitures banalisées avec une interconnexion extraordinaire entre le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur, le Home Office, etc. Est-ce que c'est ce que nous voulons en France? Certes non. Nous ne voulons pas cela. Donc, lorsque les gens font leur marché en quelque sorte, telle mesure en Angleterre, telle mesure en Norvège, telle mesure... Mais ils n'ont aucune idée de ce que c'est que comparer des systèmes, bien évidemment, qui sont des systèmes importants pour la sécurité routière. Donc, attention au mélange des genres. Il faut une étude exhaustive du pays pour voir ce qu'il en est des bonnes pratiques.
Ma question portait principalement sur les culture, sur le comportement des populations. Est-ce qu'il est différent? Est-ce que le comportement des Français est différent du comportement des Allemands, en dehors de la question des politiques qui sont appliquées par les autorités?
Je comprends bien. Pendant des années, nous avons entendu dire, oh, les Français, ce sont des latins, nous ne pourrons jamais les mater, ils feront ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Et très curieusement, grâce au radar, tous les Français ont eu les yeux bleus et sont devenus avec population aux cheveux blancs. La génétique a changé, tout simplement parce qu'il y avait des contrôles. Donc on peut toujours espérer, finalement, avec les technologies.
Marc Bertrand.
Non, je ne crois pas tellement à tout ça. Les gens, ils sont les mêmes un peu partout. Je le sais pour avoir roulé aussi dans plein de pays différents en Europe. Les gens, ils veulent se déplacer tranquillement. Et puis, des fois, il y a des interactions. Les gens, ils s'énervent. C'est pas bien. Mais voilà. Après, la spécificité française sur la route, c'est qu'on a un pays extrêmement traversé. Chantal Périchon l'a dit. Et puis aussi, c'est le fret routier qui est très intense. Et je parle pas là des super gros poids lourds, hein, des 45 tonnes. Je parle de tous ces véhicules utilitaires aujourd'hui qui dépendent totalement de la nette économie. Quand les gens, moi j'entends des gens des fois dire, ben moi j'ai plus de bagnole, ça sert à rien, je fais mes courses sur Internet. Mais quand on clique sur ajouter au panier sur son clavier, il y a un camion qui part quelque part, il y a un fourgon qui part. On les retrouve sur les routes avec des gens qui sont des chauffeurs qui sont pressurisés par leurs conditions de travail, qui sont souvent le nez collé au portable. Et ça, on a un vrai problème aussi. On a beaucoup de routes, un gros réseau routier, beaucoup de circulation et beaucoup d'échanges de commerciaux qui se passent sur la route, alors qu'on avait un réseau ferré formidable qu'on laisse à l'abandon.
Il y avait encore tout un tas de sujets qu'on aurait pu aborder. On a assez peu parlé, par exemple, des contrôles d'alcoolémie. Assez peu aussi, peut-être, Marc Bertrand, des progrès, quand même, des progrès techniques qui ont été réalisés, en particulier sur les véhicules. Le freinage assisté, le fait de pouvoir... les airbags, par exemple, dans les véhicules. Mais alors, moi qui n'ai quasiment jamais fait de moto de ma vie, est-ce que sur les motos, il y a des progrès qui ont été réalisés ces dernières années qui permettent peut-être justement de pratiquer ce mode de déplacement de manière plus sécurisée.
Non,
à part le casque.
Sur le véhicule aujourd'hui, la seule chose qui a été un apport intéressant sur les motos, c'est l'ABS, parce qu'un blocage de roue sur une moto, encore plus que sur une voiture, ça peut vous entraîner à la chute. Mais je répète que le meilleur équipement de sécurité, ça reste le cerveau, ça reste le fait de réfléchir à ce qu'on fait. Et voilà, faire de la moto, ça comporte des risques, il faut les enseigner, il faut les apprendre, il faut en tenir compte.
Eh bien, merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette discussion. Chantal Périchon, donc je rappelle, président de la Ligue contre la violence routière, Marc Bertrand, membre du bureau national de la Fédération
du
secrétariat national. Ah, c'est pour ça que vous me faisiez un petit signe tout à l'heure au début de l'émission. Secrétariat national de la Fédération française des motards en colère. Et merci à Guillaume Goubert, le directeur de la Croix du jour, dans laquelle on peut retrouver justement les entretiens de l'un et de l'autre. Merci à toute l'équipe du Grain. Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie, le duo Antoine Dulster, émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son ce soir Jacques Hubert. Demain, je ne sais pas.
Ah bah demain, il y a beaucoup de choses à dire concernant Du Grain à Moudre, parce que ce sera une émission tout à fait spéciale.
18h20, 20h au Centre Pompidou à Paris, dans le cadre de la Nuit des Idées. Je serai en compagnie de Julie Gacon pour poser un certain nombre de questions. Va-t-on faire voter les arbres? Faut-il s'interdire Facebook? Je ne vous les donne pas toutes.
Doit-on désexualiser les rapports humains?
Par exemple.
Et avons-nous quelque chose à faire pour la nation?
Pourrons-nous patienter pendant 24 heures pour retrouver la dispute? Ça sera aussi peut-être une question qu'on posera demain.
Ça, c'est vrai que vous allez prendre la place. Il n'y aura pas de dispute demain, il y en aura une dans 3 minutes qui sera consacrée aux arts plastiques. Mais tout de suite, il est 19h, l'heure des titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.